en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Les plantes OGM sont toujours sujettes à controverses en France. Rappelez-vous, après un moratoire de 3 mois, le gouvernement, en avril 2008, a décidé de geler les cultures de maïs Mont 810. Les plantes OGM sont-elles une menace pour notre santé ? Après 10 ans d'exploitation du soja aux États-Unis, aucun effet secondaire n'a encore été détecté. Mais que sait-on du maïs ? Maïs, seule plante transgénique autorisée pendant un temps à la culture sur le sol français. L'immunologiste Jean-François Bac et le cultivateur Claude Ménara répondent à cette question. Ils s'exprimaient dans le cadre d'un colloque international organisé par l'Académie des sciences sur la biotechnologie dans le monde végétal. C'était en septembre 2008. Cette retransmission est la 3e d'une série de 3. Nous vous invitons également à écouter les 2 autres volets sur notre site, des interventions à la fois en français et en anglais. Jean-François Bec et Claude Ménara ont fait le choix de s'exprimer dans la langue de Molière. Débutons par les potentiels risques allergènes des OGM pour l'être humain avec le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, Jean-François Bec.
Le débat récurrent sur les risques sanitaires des OGM intrigue de façon complexe, et cela vient d'être rappelé, des observations scientifiques qui peuvent être analysées de façon positive et négative, et des convictions irrationnelles fondées sur la peur de l'imprévisible et qui a été évoquée avec le talent que vous avez pu voir hier par Luc Ferry. Alors avant d'entrer dans le problème des risques, puisque le titre qui m'avait été donné était OGM et santé, je voudrais simplement dire quelques mots, c'est à peine nécessaire, mais quelques mots pour rappeler les bienfaits existants au potentiel des OGM pour la santé des hommes. Il y a bien sûr la possibilité d'éviter les graves déficits nutritionnels par l'augmentation de la productivité agricole dans les pays soumis à des conditions difficiles, notamment en apport hydrique ou en salinité. Il y a, je vais l'illustrer par une diapositive dans un instant, la possibilité de corriger spécifiquement, sélectivement, certains déficits nutritionnels, la possibilité offerte et débutante, mais intéressante, de produire des médicaments ou des vaccins avec ces OGM, surtout utilisables dans un premier temps pour les animaux, mais après tout, pourquoi pas après, pour l'homme, si tous les contrôles nécessaires s'avéraient satisfaisants. Et puis il y a aussi la possibilité de réduire l'utilisation des herbicides et des pesticides, mais ceci est un autre sujet. Alors juste un mot sur le deuxième point, la vitamine A. Je pense qu'il est important d'illustrer ce point en citant les travaux de Dingo Petrokos, qui s'est battu depuis très nombreuses années pour essayer de pouvoir faire utiliser le riz doré qu'il avait produit par transgénèse en surexprimant une provitamina. C'est un riz qui serait potentiellement extrêmement important dans certains pays asiatiques, où vous savez, plusieurs centaines de milliers d'enfants en particulier deviennent aveugles quand ils ne meurent pas, dû à certaines maladies infectieuses, en raison d'une carence en vitamine A. Bon, c'est un point qui est important. Il est regrettable que là aussi, toutes les difficultés que nous connaissons, que nous avons entendues, empêchent l'utilisation de ce riz, certainement, potentiellement très utile. Alors, arrivons-en aux risques sanitaires. Ils viennent déjà d'être évoqués par M. Pascal, donc je voudrais être très bref sur les 2 prochaines diapositives. Il est évident que l'absence d'effets secondaires apportés sur de très larges populations ayant consommé des OGM est rassurant. Avec, bien sûr, les nuances qui viennent les discuter. Comme on le dit parfois, l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence d'effets secondaires. Et cela est vrai d'abord pour des effets secondaires relativement modestes, mais aussi éventuellement pour des effets secondaires relativement graves et rares. C'est ces phénomènes idiosyncratiques. Qui sont très difficiles d'appréhender quand on n'a pas de piste, parce que ils sont rares, pas toujours très spécifiques, et on a beaucoup de mal à les rapprocher, à les rattacher à un traitement particulier. Et je voudrais ici citer ce concept de pharmacovigilance qui est bien connu en médecine. Vous savez que lorsqu'un médicament est mis sur le marché, il y a d'abord des essais de phase 1, 2, 3, et puis après le produit est commercialisé et les agences des différents pays mettent en place des programmes de vigilance qui ne sont plus, qui ne s'appliquent plus à des essais randomisés, mais simplement à l'ensemble des malades utilisant tel ou tel médicament. Et cette pharmacovigilance étant fondée sur les rapports qui sont adressés aux agences par les médecins qui croient avoir vu une éventuelle relation entre la prise de ce médicament et un effet secondaire. C'est très compliqué, c'est très difficile. Et j'ai été amené à voir récemment ce type de problème pour des produits immunostimulants qui avaient été utilisés chez des centaines de milliers, peut-être même des millions d'enfants depuis 15 ans. Et il y a eu quelques effets secondaires qui ont été rapportés. Il était, dans la pratique, quasiment impossible d'avoir une certitude. Donc c'est un problème général qui n'est pas propre aux OGM. Et comme le disait très bien M. Pascal, qui n'est pas propre aux OGM, il vaut également pour certains aliments tout court, non OGM. Alors, la crainte de l'imprévisible est évidemment quelque chose qui interpelle. Le suivi des populations, je viens d'y faire allusion, c'est très difficile, c'est important, et il est évident que c'est un sujet qui mérite réflexion. Bon, la toxicologie, ça a été traité en détail, je ne vais pas y insister. Il est évident que les différences d'espèces sont parfois des obstacles infranchissables à l'utilisation des tests toxicologiques. Nous le verrons tout à l'heure pour l'allergénicité, c'est moins vrai pour d'autres effets toxiques, mais il faut bien se rendre compte des limites de ces effets toxicologiques. Je voudrais maintenant en arriver au risque principal qui a été évoqué pour les OGM, qui est le risque d'allergie. Je ne parlerai pas de la résistance aux antibiotiques, qui n'est plus un problème, pour les raisons que vous savez, mais donc je voudrais parler du risque allergique. Et j'ai pensé que devant cet auditoire, qui est surtout composé, si je comprends bien, de biologistes végétaux, peut-être il serait utile de rappeler en quelques diapositives comment se présentent les maladies allergiques, les allergies. C'est un sujet dont on parle souvent, mais je ne suis pas sûr que chacun connaisse exactement de quoi il s'agit dans le détail. Alors l'allergie, c'est avant tout, il faut le dire, simplement une réaction exagérée vis-à-vis d'un antigène qui s'appelle allergène dans la mesure où il donne lieu à une réponse allergique. Et il y a de nombreux types de réactions allergiques qui se présentent dans des conditions cliniques très différentes. L'anaphylaxie, qui est une réaction très brutale, éventuellement mortelle, quand elle se présente d'une certaine forme maximum, est due à des anticorps IgE d'un type particulier, une affinité particulière. Elle peut se traduire, donc elle survient dans les secondes ou dans les minutes qui suivent l'administration de l'allergène chez des sujets qui sont déjà sensibilisés, et elle est parfaitement spécifique d'un antigène donné. C'est souvent après une administration intraveineuse, mais parfois pas. Et vous savez que la grave complication, la grave cause, et fréquente cause, une relativement fréquente cause de mort subite, que représentent les chocs anaphylactiques secondaires à des piqûres de guêpes ou d'abeilles. Le deuxième type d'allergie est également toujours une allergie spécifique d'un allergène donné. C'est typiquement l'allergie à un médicament. Un sujet peut être allergique à un médicament, il sera allergique qu'à ce médicament ou à quelques autres, mais il n'aura aucun terrain allergique en général. Et cela est important dans le cas particulier qui nous intéresse, parce que cela voudrait dire qu'il serait possible qu'un individu donné puisse se sensibiliser contre un antigène donné. Alors ces allergies spécifiques sont de deux types, les unes les moins fréquentes, font intervenir les cellules T, c'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité de contact. Mais enfin, il faut en parler, parce que dans le cas particulier des OGM, il y a tous les travailleurs agricoles qui manipulent ces OGM. Et donc, en théorie, il n'y a pas de cas observé, mais en théorie, puisque nous parlons de toutes les possibilités, il y aurait le risque de développer une allergie de contact. Et puis, il y a ce qui est beaucoup plus fréquent, ce sont les allergies dues aux IgE, donc à des anticorps. Bon, c'est compliqué l'immunologie, parce que même si ce sont des anticorps, les cellules T contribuent à la fabrication de ces anticorps. Et nous connaissons bien l'existence d'allergies contre donc de très nombreux antigènes. Puis il y a un autre, alors les allergies alimentaires, il faut en parler bien sûr, parce que ça nous concerne très directement aujourd'hui, elles relèvent en général du même type que ces allergies spécifiques d'un antigène. Même si un sujet donné peut avoir, et c'est là où les choses se compliquent un peu, une tendance à développer des allergies vis-à-vis de plusieurs aliments. Mais enfin, un sujet donné est allergique vis-à-vis d'un médicament. Moi, je connais des personnes qui sont allergiques au homard, pour prendre les mets un petit peu chic, d'autres au caviar, mais ceux qui sont allergiques au caviar ne le sont pas au homard. Donc il y a une certaine spécificité. Il y a certains types d'aliments qui donnent plus volontiers que d'autres à des allergies, devenir des allergies alimentaires. Et surtout des aliments qui donnent lieu à des allergies plus graves que d'autres. L'allergie, la forme d'allergie la plus grave, parmi les allergies pas fréquentes heureusement, mais quand même non exceptionnelles, c'est l'allergie à la cacahuète. Et c'est une des raisons pour lesquelles, c'est pas la seule, les cacahuètes ne sont plus distribuées dans les avions, puisque cela peut entraîner une anaphylaxie ayant des conséquences excessivement graves. Et puis il y a un autre domaine d'allergie qui n'est pas vraiment à proprement parler de l'allergie, mais qui est étroitement lié. C'est ce qu'on appelle les maladies atopiques. C'est un terrain immunologique spécial sur lequel se développent des maladies telles que l'asthme, les rhinites. On pourrait sans doute y associer les eczémas du nourrisson, encore que ce soit un peu compliqué. Et là, il y a des réponses de type allergique faisant intervenir des IgE de nouveau, mais le plus souvent, ces sujets sont polysensibilisés, ils ne sont pas sensibilisés contre un antigène. Alors, il y a des choses à dire sur les personnes qui développent toutes ces réactions allergiques. Comme toutes les réponses immunitaires, ces réponses allergiques sont soumises à un contrôle génétique extrêmement strict. On connaît certains des gènes qui assurent ce contrôle, on les connaît pas tous. On les connaît surtout pour les maladies atopiques, parce que c'est là que les recherches ont surtout été réalisées. D'ailleurs, on les connaît presque pas pour les autres formes de réactions allergiques qui sont évoquées en haut de cette plaque. Mais il y a une réactivité individuelle importante. Pour ce qui concerne les maladies atopiques, comme je le disais tout à l'heure, qui sont les plus fréquentes, les mieux étudiées, lorsqu'il y a un parent atopique, le risque chez un enfant de développer une atopie atteint 10 à 20%. Et ça peut être 30 ou 40% si les deux parents sont atopiques. Donc un risque génétique très fort. Il y a également un effet de l'environnement, je voudrais être très bref là-dessus, je ne voudrais pas être trop long. Il y a eu l'observation qui a été faite de partout maintenant que la fréquence des maladies atopiques, je ne parle pas des allergies isolées, où les données sont moins nombreuses. Mais la fréquence des maladies atopiques s'est beaucoup accrue au cours de ces 20 à 30 dernières années, en même temps que s'accroissait la fréquence des maladies auto-immunes, et en même temps que décroissait la fréquence des maladies infectieuses, que s'améliorait l'hygiène des aliments, en particulier pour ce qui concerne les bactéries. Alors, sans rentrer dans le détail d'une théorie qui nous amènerait trop loin, mais il y a très probablement un rapport entre les deux, c'est le fait que le système immunitaire n'est plus tourné aussi fortement vers l'éradication des agents infectieux qui fait qu'il se retourne, si je peux parler de façon aussi triviale, vers des antigènes plus faibles que sont les allergènes et les auto-antigènes qui expliquent l'augmentation des maladies allergiques. Et juste un point qui peut intéresser certains, c'est le cas de l'Allemagne de l'Est avant la disparition du mur. Eh bien, on avait noté que la fréquence des maladies atopiques était plus grande en Allemagne de l'Ouest qu'en Allemagne de l'Est, ce qui était paradoxal parce qu'en Allemagne de l'Ouest, il y avait beaucoup moins de pollution qu'en Allemagne de l'Est. Là, il s'agit plus de GM, mais de pollution, et ça montrait bien que ce n'était pas la pollution qui était à l'origine de l'asthme. Mais revenons au sujet qui nous intéresse, qui est celui des allergies alimentaires. Si on fait exception, je le disais, des allergies de contact, et même peut-être des asthmes qui pourraient théoriquement survenir après inhalation de pollen. Si on regarde le cas des allergies alimentaires, il faut d'abord évoquer ce qu'est le devenir des allergènes, des antigènes dans le tube digestif. Ben, le premier devenir qui est le plus courant, je parle maintenant de la molécule antigénique étudiée, analysée par son pouvoir d'induire une réponse immunitaire, par son antigénicité, je dirais même, par son immunogénicité. Le premier devenir, c'est la destruction. C'est la destruction dans l'estomac, puis après dans l'intestin. La molécule antigénique est détruite. Les sites, les motifs antigéniques sont détruits. Je vais y revenir dans un instant. Le deuxième sort, qui est moins connu, c'est la tolérance. Et c'est d'ailleurs le plus fréquent. Lorsqu'un antigène passe la barrière de l'estomac et résiste suffisamment longtemps dans l'intestin, c'est la première possibilité en fréquence, c'est d'induire une tolérance immunitaire, c'est-à-dire d'induire une paralysie immunitaire systémique vis-à-vis de l'antigène en question. Au point que certains groupes actuellement étudient la possibilité de traiter les maladies auto-immunes en administrant des auto-antigènes par voie orale, en essayant d'induire cette tolérance orale. Et puis, la troisième possibilité, c'est celui de déclencher une allergie alimentaire. C'est un risque réel, connu, sur lequel j'ai déjà dit quelques mots. Alors, tout ça est intéressant parce que ça nous fait réfléchir, bien sûr, à ce que pourraient être les antigènes à l'origine d'allergies alimentaires. Alors, on n'en sait pas grand-chose. D'ailleurs, on ne sait pas grand-chose tout court sur ce qui distingue un antigène qui donne lieu à des réactions allergiques à ceux qui n'en donnent pas. On sait que certaines molécules, pour des raisons inconnues pour l'essentiel, donnent lieu à des réactions allergiques. On ne sait pas, c'est sans doute au niveau de la configuration tertiaire que cela intervient. On ne connaît pas vraiment ce qui différencie un antigène allergénique d'un autre. On sait néanmoins que pour ce qui concerne les allergies alimentaires, cela a été montré, cela est compréhensible. Ce sont les antigènes les plus résistants à la destruction dans l'estomac et dans l'intestin qui ont le plus de risques d'induire une réaction allergique. Alors, j'aurais voulu ici, à ce niveau de la discussion, présenter un travail qui a été d'ailleurs déjà présenté dans cette même salle par ses auteurs lors de la séance des avancées biologiques auxquelles nous invitons de jeunes chercheurs à présenter leurs travaux chaque année. Et c'est un travail qui est issu d'un groupe à Nice, dirigé par Nicolas Gleichenhaus. Et l'idée était la suivante. La question posée était, est-ce que le passage d'un allergène dans le lait maternel ne pourrait pas protéger le nouveau-né d'une allergie ultérieure à cet antigène? Alors, il y a beaucoup de biais dans cette étude. Bon, il faut la prendre avec réserve. C'est pas parce qu'elle a été publiée dans Nature Medicine qu'elle est vraie. Je pense néanmoins qu'il y a des données très intéressantes dans ce papier et qui méritent d'être présentées parce que elles pourraient ouvrir une discussion sur les OGM. Alors, l'expérience est simple. Donc, un allergène, l'ovalbumine dans le cas particulier, est donné par inhalation à des mères pendant la lactation, et après, les souris nouveau-nés, cet effet dans deux souches de souris, sont testés ultérieurement après quelques jours pour voir s'ils sont tolérants, autrement dit, est-ce qu'ils sont capables ou non de répondre par une réaction allergique à l'antigène qu'on leur injecte à ce moment-là. Alors, quand vous voyez les résultats en bas, en termes le nombre de cellules dans les lavages bronchiques, et on voit que chez les animaux qui ont reçu du lait de mère qui avait été exposé à l'allergène, eh bien, il y a une diminution du nombre de cellules, notamment des éosinophiles, qui sont caractéristiques de ces réactions allergiques. On peut regarder ça par des tests fonctionnels, en faisant des tests étudiant la résistance bronchique, ou même regarder par l'histologie des bronches. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on montre que, de nouveau, qu'il y a une moins grande, c'est pas beaucoup moins grande, mais significativement moins grande, un moins grand risque, une moins grande intensité de développement des réactions allergiques chez les animaux dont les mères, nées de mères exposées à l'allergène. Alors, ça pourrait dire, si on veut aller dans le sens de la crainte d'un effet allergénique particulier des OGM, que l'introduction d'un nouvel aliment, d'un nouvel antigène dans l'alimentation de sujets qu'ils n'avaient jamais rencontrés parce que ces antigènes n'existaient pas, pourraient peut-être, en théorie, exposer à des risques un peu plus grands parce que il n'y a pas eu de contact entre les mères et cet antigène qui n'existait pas à l'époque, où ces enfants étaient encore des nouveau-nés. Bon, en pratique, il faut bien savoir qu'il n'y a qu'une fraction qui est de plus en plus grande, de nouveau aujourd'hui, d'enfants allaités. Et il y a toute une raison de penser en plus que ce sont les antigènes introduits après la lactation, sont très nombreux. Donc, c'est un cas particulier qui est intéressant à signaler. C'est une donnée nouvelle, c'est une belle expérimentation. Mais je ne pense pas que c'est d'incidence totalement essentielle. Bien, alors maintenant, il faut parler un petit peu de ce que sont les néo-antigènes qui sont donc les antigènes qui peuvent donner lieu à des réactions, disons avec des réactions d'allergénicité. Alors il faut savoir que ces néo-antigènes, il n'y a pas seulement les antigènes produits présents dans les OGM. Il y a la chimie de synthèse fabrique des antigènes nouveaux tous les jours. Les médicaments qui sont fabriqués de façon totalement, je dirais, artificielle par rapport aux antigènes naturels sont largement utilisés, notamment par voie orale. Bon, il peut y avoir des allergies, mais dans des situations où on est souvent beaucoup plus loin que les antigènes naturels. Il y a aussi les antigènes qui sont introduits dans des aliments par hybridation génétique conventionnelle. Il n'y a rien de différent sur le fond que d'introduire un gène par hybridation et croisement retour rétro-croisement successif que de faire du génie génétique. Sur le plan de l'antigénicité, c'est exactement la même chose. Et puis, sans compter le fait que des personnes qui voyagent loin de leur pays natal sont exposées à des antigènes qu'ils n'ont jamais rencontrés. Donc, la notion de néo-antigène n'est pas propre aux OGM. Il y a une autre notion qui est importante à préciser, c'est la notion de réaction croisée. Parce qu'à un moment, et ceci a été pas mal étudié, notamment par différents comités, les gens se sont dit, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir le risque de réveiller une réaction allergique contre un antigène, réaction allergique un peu en sommeil. Alors il y a eu de nombreuses études qui ont été faites pour rechercher des homologies de séquences entre l'allergène, un allergène connu, et une protéine présente dans un OGM. Alors ça, nous connaissons bien le problème, parce que ce problème s'est posé pour le vaccin contre l'hépatite B par rapport à la protéine basique de la myéline et bien d'autres situations. C'est extrêmement difficile, et la recherche d'homologie, elle est théoriquement satisfaisante, dans la pratique, elle est certainement illusoire, pour ne pas dire dérisoire, que l'on recherche des déterminants séquentiels qui sont les seuls pour lesquels on peut dire quelque chose, et encore plus les déterminants configurationnels qui sont des conformationnels qui ne sont pas étudiables par les séquences parce qu'ils correspondent à des repliements des protéines et qui sont les seuls importants parce que l'allergie c'est avant tout des IgE et les anticorps reconnaissent des configurations et non pas des séquences comme le font les cellules T. Bien, alors j'aurais voulu pour terminer dire deux mots du répertoire immunologique simplement pour dire que il faut savoir que le répertoire immunologique, c'est un beau terme pour dire que nous avons chacun, dans nos lymphocytes, la possibilité de reconnaître des dizaines de millions, des centaines de millions d'antigènes. Il n'y a rien, et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que les gènes qui nous permettent d'assurer cette reconnaissance par les récepteurs pour lesquels ils codent, sont des gènes qui apparaissent, qui sont présents dès la vie embryonnaire, qui apparaissent, je ne vais pas rentrer dans le détail des réarrangements des gènes qui conduisent à ces gènes de récepteur B ou récepteur T. L'important, c'est que l'expression de ce répertoire est totalement indépendante de l'exposition préalable à des antigènes. Module un petit peu. Autrement dit, il n'y a pas de différence pour un système immunitaire entre un antigène de l'environnement existant, dans la nature, et un antigène complètement chimique, comme j'évoquais tout à l'heure. Donc tout ça pour relativiser le cas des néo-antigènes qui sont produits par le génie génétique. Je vais passer celle-là pour Guillaume, parce que la cloche a déjà sonné. Et j'aurais voulu terminer en reprenant cet aspect de prédiction qui a été évoqué par Monsieur Pascal, mais appliqué à l'immunologie, appliqué à l'allergénicité. In vitro, on peut pas faire grand-chose. On peut regarder la sensibilité au pH acide, aux enzymes digestives. Ça, c'est une chose. Ça peut identifier peut-être certains risques. On peut faire des expériences chez l'animal, mais alors là, je parlais du contrôle génétique strict chez l'homme, c'est encore pire si on veut comparer différentes espèces. Vraiment, et ça on le sait, c'est-à-dire tout le problème des industries pharmaceutiques, c'est l'incapacité dans laquelle elles sont d'identifier le risque d'allergénicité pour un médicament qui vient de sortir. Et je voudrais savoir si le médicament risque d'être allergique chez l'homme. Les tests animaux, ils sont faits, ils ont très peu de valeur, donc c'est difficile. Cela dit, dans certains cas, ça peut avoir de la valeur, donc il faut les faire. Mais il y a une possibilité très importante, par contre, et qui a été peu utilisée. Nous avons la chance, dans le cas des OGM, de connaître les protéines qui sont le produit des transgènes. Donc nous pouvons faire des essais in vitro, des tests sérologiques ou même cellulaires, si on veut étudier les cellulités, avec les protéines recombinantes. Donc on peut regarder s'il existe des anticorps dans la population exposée. Il faut prendre des précautions. Il faut bien prendre des protéines recombinantes qui soient glycosylées, comme le seront les OGM. Bon, c'est les problèmes de cuisine, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais on peut faire ces tests. Il est évident que la réalisation de ces tests sur des larges populations de sujets exposés pourrait permettre, avant même que surviennent des réactions, et avant même de savoir si ces réactions ont une certaine spécificité, permettrait de détecter certains risques. Là, commence à être fait, mais a été peut-être moins fait que ça pourrait l'être. Voilà, je voudrais conclure en disant très 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 simplement que la possibilité d'une allergénicité d'un OGM est une réalité que l'on ne peut pas évacuer. En théorie, c'est tout à fait possible. Je dirais comme deuxième point que toutes les connaissances que j'ai très rapidement revues devant vous n'incitent pas à l'inquiétude. Il n'y a vraiment pas de raison d'être inquiet a priori, et surtout, et c'est le troisième point, que les données actuellement disponibles, comme cela a été rappelé par M. Pascal pour les autres effets secondaires, les données disponibles ne montrent pas de faits scientifiques qui alertent particulièrement, et qui alertent particulièrement pour des choses irréversibles. Je dirais bien sûr aussi qu'il est tout à fait essentiel de rester vigilant. J'ai parlé de pharmacovigilance, j'ai parlé de tests sérologiques. Je pense qu'il faut se mettre en position de pouvoir détecter des effets secondaires de type allergique et donc ne pas se contenter du risque extrêmement minime a priori, mais de tout faire pour détecter un risque réel s'il survenait. Merci.
Vous venez d'entendre Jean-François Bach sur la question d'éventuels risques pour la santé humaine. Poursuivons avec l'intervention du cultivateur qui explique les raisons pour lesquelles il poursuit la culture du maïs OGM. On écoute Claude Ménara.
Tout d'abord, permettez-moi de féliciter les organisateurs de ce colloque. C'est vraiment judicieux. Permettez-moi également de vous remercier pour l'honneur que vous me faites de m'avoir invité dans ce lieu de la science et surtout de me permettre de pouvoir m'exprimer devant vous concernant mon activité, mon métier d'agriculteur. Je vais me présenter rapidement. Donc, je suis agriculteur dans le sud-ouest de la France, en Lot-et-Garonne précisément, sur une exploitation de 420 hectares, sur lequel je produis du maïs doux pour la conserverie, pour l'apertiser. Il y a deux sortes de maïs doux, maïs standard et le maïs super sweet. Donc, qui est destiné aux plats cuisinés, également production de haricots verts, de petits pois, et également du maïs pour la consommation animale, donc 120 hectares de maïs consommation animale et donc 100 hectares de maïs OGM. J'ai commencé à produire en 98. J'ai découvert cette technologie aux États-Unis suite à un voyage professionnel, donc en 94. Et c'est vrai qu'à mes yeux, ce maïs, cette façon de cultiver, m'est apparu vraiment fabuleuse pour l'environnement, évidemment pour la partie économique, mais également pour l'environnement. Et donc j'ai commencé en 98, suite à la décision du Premier ministre de l'époque, qui était Lionel Jospin, qui nous a autorisé donc à produire ce maïs MON 810, le seul autorisé bien sûr en Europe et en France. Donc malheureusement, en 99, nous avons eu le moratoire. Mais ceci dit, moratoire ou pas moratoire, personnellement, j'ai gardé une petite parcelle bien isolée où j'ai pu continuer mon expérimentation. Parce qu'en fait, c'est la passion de ces biotechnologies qui ont fait que j'ai pris... Bon, je prenais pas de risque à partir du moment où c'était tenu secret, ce qui n'a pas été vrai par la suite. Toujours est-il que j'ai pu continuer en 99, 2000, jusqu'en 2005. Évidemment, jusqu'en 2007. Malheureusement, cette année, on est privé de cette culture. Et c'est bien dommage. On en reparlera tout à l'heure. Je suis également administrateur de la GPM, de l'Association Générale des Producteurs de Maïs. Et à ce titre-là, en 2002, la GPM a demandé à Arvalis, notre institut de recherche, institut du végétal, de mettre en place un programme d'évaluation, d'expertise. Et donc ce programme s'est étalé sur 3 ans, 2002, 2003, 2004. En fait, ce programme était destiné justement à faire l'expertise, la méthodologie et l'environnement, mais également de réétudier la coexistence, les fécondations croisées, la dispersion pollinique, le problème des insectes. Et c'est dans le but, c'était surtout, comment dirais-je, de démontrer l'innocuité de ce maïs, de cette technique, de ce maïs, également de parler de cloisonnement au sein même des filières, sachant pertinemment que dans le Grand Sud-Ouest, il y a toutes sortes de maïs, du maïs semence en passant par le maïs waxy, le maïs doux, le maïs semoulerie pour le gavage des canards. Donc nous avons toute la filière représentée dans le Grand Sud-Ouest. Et donc c'était intéressant d'avoir justement ces informations de manière à permettre à des agriculteurs intéressés par la technique de le faire en connaissance de cause. Donc ce programme a duré 3 ans, 2002, 2003, 2004. En 2005, ce programme a été abandonné et on a opté pour le programme d'accompagnement issu PACB, programme d'accompagnement des cultures issues des biotechnologies, ce qui a permis de mettre en évidence la coexistence et le bien fondé de cette technologie et de voir également si cette technique pouvait se développer sans contraintes particulières. Et de tester également notre environnement immédiat, c'est-à-dire le voisinage et les partenaires de l'agriculture. Nous avons été 15 agriculteurs donc en 2005 à tester donc sur 80 hectares cette technique dans le Grand Sud-Ouest, ce qui nous a permis effectivement de mettre en relief qu'en fait l'innocuité de cette technique de ce maïs était parfaite. Je suis d'autant plus sécurisé quand j'ai entendu Monsieur Bache dire tout à l'heure qu'en fait il y avait vraiment pas de problème particulier, parce que c'est vrai que bon, nous sommes des agriculteurs, nous sommes pas des scientifiques, et Dieu sait qu'à force de vous dire attendez, vous êtes des empoisonneurs, vous êtes des pollueurs, donc on finit par se dire est-ce qu'il n'aurait pas raison. Donc je vais repartir vraiment sécurisé en me disant je n'ai empoisonné personne. Sachez quand même que je mange des poulets, des œufs depuis 10 ans. Je dirais pas que le maïs OGM a donné de la jeunesse, mais enfin bon, je me porte très bien. Ceci dit, développement du maïs OGM en France. Donc en 2005, nous étions à 500 hectares, 515 hectares et des poussières. 2006, grosso modo 5000 hectares. 2007, explosion. Les surfaces multipliées par 4. Donc, 22 000 hectares et des poussières. Donc, une évolution fulgurante, malgré la pression des anti-tout. Comme je dis souvent, malgré un climat hostile, toujours est-il que ces cultures se sont développées. Alors, me direz-vous, pourquoi un agriculteur opte pour les biotechnologies? Je vais quand même vous livrer une confidence, surtout ne le répétez pas. En 2000, quand Monsieur Glavany était ministre de l'Agriculture, il a mis en place les CTE, qui étaient une véritable usine à gaz. Enfin, toujours est-il qu'avec ces CTE, il y avait beaucoup, beaucoup d'argent. Il y avait une enveloppe financière qui était énorme pour des CTE, mais surtout des CTE pour la reconversion en bio. Alors, je me suis dit, Claude, tu n'es pas plus bête qu'un autre, tu vas faire un stage bio. Et c'est ce que j'ai fait. Alors c'est vrai que en visitant les exploitations, maraîchères, exploitations viticoles, arboricoles, quand on a commencé à me parler de roténone, on parlait bien sûr du Bacillus thuringiensis, ce qu'on utilisait donc pour traiter les maïs, pour protéger les maïs. J'ai fait un constat. J'ai dit non, ça c'est pas pour toi. En fait, le constat que j'en ai tiré, et je ne suis pas seul à l'avoir tiré. Ceci dit, je ne tire pas à boulet rouge sur l'agriculture biologique. Hein, j'ai le plus grand respect pour les vrais producteurs bio. Mais je me suis dit, produire bio, c'est produire nettement moins, c'est produire beaucoup plus cher, et c'est pas produire mieux, et c'est produire pas mieux. Donc, on abandonne. Et je me suis donc vraiment mis dans les biotechnologies à fond. Donc, pour en revenir donc au choix de l'agriculteur, des agriculteurs que nous sommes, que je suis. Pourquoi on choisit? Si ce n'est, bien sûr, pour plusieurs choses. En fait, il y a déjà la partie agronomique, la partie technique, la partie économique, la partie sanitaire, la partie environnementale. Et bien sûr, l'aspect phonoxylaire. Il faut quand même savoir que nous avons une activité, l'agriculture, qui est quand même polluante. Nous sommes troisième après les transports, après l'industrie, troisième avec le bâtiment. c'est quand même beaucoup de CO2. Il faut quand même savoir que l'agriculture est contributive de 300 millions de tonnes de CO2 par an, donc ce n'est pas négligeable. Ceci dit, nous avons une activité qui est polluante. Et Dieu sait que nous n'avons pas attendu le Grenelle de l'environnement pour se poser des questions et se dire, bon, comment peut-on produire différemment, produire plus propre, en utilisant le moins possible de phytopharmacie. Je parlerai pas de pesticides, je parlerai de phytopharmacie. Donc effectivement, avec ces biotechnologies, nous avons la possibilité effectivement de produire différemment, de sauvegarder le potentiel de la plante, parce que OGM ou non OGM, ou BT ou non BT, le potentiel est exactement le même. À la différence près, c'est qu'avec du BT, il n'y a pas de perte. Le potentiel est exprimé 100%. 99, et des petites virgules. Donc voilà. Donc, c'est déjà sauvegarder, comment dirais-je, ce potentiel. Et ensuite se dire, je peux produire sans se servir de la phytopharmacie, des insecticides. Dieu sait que l'insecticide, bon, mais que nous employons, c'est péritrénoïde, c'est un neurotoxique. Donc, ce n'est déjà vraiment pas bon pour notre santé, déjà l'utilisateur. C'est pas bon pour l'environnement et c'est encore moins bon pour la faune auxiliaire, hein, ne serait-ce que pour les coccinelles. Les coccinelles, bon, qui sont des êtres très utiles, mais qui sont très sensibles aux péritrénoïdes. Donc le choix a été fait effectivement de produire sans avoir recours à ces insecticides. Et Dieu sait que nous n'utilisons pas dans le Grand Sud-Ouest, tous les producteurs BT n'utilisent pas d'insecticides pour protéger les maïs contre la pyrale et la sésamine. Alors évidemment, on a essayé les trichogrammes. Bon, trichogramme, ça vaut ce que ça vaut. Bon, c'est valable pour la pyrale, mais ça n'a aucun effet sur la sésamie. Il faut savoir qu'en fait, la sésamie fait quasiment autant de dégâts que la pyrale. Quand vous avez des pieds de 50-60 cm, bon, qui s'assèchent et qui meurent parce qu'ils sont perforés, bon, ça c'est une perte sèche. Et ensuite, bien sûr, ce problème de, comment dirais-je, de pyrale qui vous attaque les épis, qui donc ensuite vont voir se développer le fusarium monoliforme, qui dit monoliforme dit fumonisine, et ainsi de suite. Donc le producteur aujourd'hui, il produit, mais il faut qu'il vende sa récolte. Et donc avec les dernières directives européennes sur les mycotoxines, nous avons des normes respectées. La fumonisine, c'est 4000 ppb. Nous avons la DON, nous avons la ZEA. Il faut quand même savoir qu'en 2006, dans le Grand Sud-Ouest, 2006 a été une année catastrophique au niveau des mycotoxines. Sur les trois mycotoxines, DON, ZEA, fumon, il y avait 71% des maïs sud-ouest. Donc, sud-ouest, c'est vraiment la grande région de maïsicole. 71% des maïs avaient au moins une mycotoxine qui était en dessus du seuil autorisé. Ces seuils ont été relevés à la demande de notre syndicat, dont la GPM, où donc de 2000 ppb, on les a remontés à 4000 ppb. Mais ceci dit, même 4000 ppb, une année comme cette année, où la première vague de papillons, première génération de papillons a été faible du fait du printemps froid et humide. Dieu sait que la deuxième génération de papillons, ben c'est là les carabinés. Cette année, nous avons des semis de maïs tardifs, des végétations tardives, une récolte qui va être tardive, et je vous garantis que les taux de fumonisine de cette année vont être carabinés. Donc, attendons de voir. Mais nous avons déjà des indices. Chez moi, j'ai un piège lumineux, et je peux vous dire que les papillons que nous avons piégés le mois dernier, c'est phénoménal. C'est énorme. Donc effectivement, il y a un risque qui est énorme. Donc cette année, malgré les insecticides, parce que là aussi insecticides, bon, c'est bien joli, mais l'insecticide, Dieu sait qu'on l'utilise, cet insecticide, à petite dose. Bon, c'est un grammage très très faible, c'est de l'ordre de 30 grammes hectare. Moi, je l'utilise à 15 grammes, c'est-à-dire que c'est des demi-doses, justement, pour avoir un effet dans le temps. Parce qu'en fait, un insecticide, il est efficace sur 5-6 jours, en fonction des conditions climatiques. Il est évident que s'il fait très chaud, 5-6 jours après, il n'y a plus rien. Donc, le fait de mettre une demi-dose et de le répéter tous les 5-6 jours, on protège au maximum la plante. Mais ceci dit, on la protège pas à 100%. Et une année comme cette année, où on a eu un printemps hyper difficile, quand il pleut, bon, ben, on ne peut rien faire. Quand il y a du vent, on ne peut pas traiter. Mais les chenilles, elles bossent. Elles pénètrent. Et puis, une fois qu'elles ont pénétré dans la tige du maïs, eh bien, nous sommes chocolat. On ne peut plus les atteindre. Il n'y a qu'une seule solution pour les atteindre. C'est au stade baladeur. Donc, c'est hyper difficile. Et donc, il faut que les conditions climatiques soient de notre côté, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc effectivement, le fait d'opter pour ce maïs OGM, on est sécurisé, on sécurise bien sûr le résultat économique. C'est également l'aspect comment dirais-je agronomique. Chaque fois, c'est un passage de tracteur. Chaque fois, c'est de la compaction. Et on sait très bien que pour une plante qui pour qu'elle puisse se développer normalement, qu'il n'y ait pas de facteurs limitants, eh bien, il faut que ce soit aéré, soit le plus possible poreux. Il faut qu'il y ait de la vie tout simplement, un sol compacté. À preuve du contraire, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui pousse dessous ou qui se développe dessous. Il y a bien sûr l'aspect comment dirais-je, je l'ai abordé tout à l'heure rapidement, l'aspect, je dirais, au-delà, comment dirais-je, des quintaux. Mon expérience à moi, 10 ans de monoculture OGM sur une parcelle dont de 3 hectares, c'est 13 quintaux de moyenne sur mon exploitation en 10 ans, sachant pertinemment qu'il y a eu des années à 23, 24 quintaux, des années à 5 quintaux, 6 quintaux. Donc, on était limite au niveau du résultat économique, sachant pertinemment que le surcoût de semences est de 40 euros. Donc 40 euros, enfin, tout dépend bien sûr du marché du maïs. Valeur aujourd'hui à 170-180 quintaux, il est évident que ça n'a pas la même incidence que du maïs à 90 ou 100 quintaux. Bon, ensuite, donc ça c'est le premier approche. Ensuite, bien sûr, il y a l'aspect, on a quand même poussé plus loin avec Carvalis en disant, bon, comment dirais-je, il y a l'environnement, il y a le CO2, bon, l'éco-bilan, tout le monde parle de l'environnement, on n'entend plus que ça. Bon, on s'est dit, bon, on sait qu'on pollue, on sait qu'un passage de tracteur, bon, eh bien, ça consomme du carburant, ça consomme du fuel, et du fuel, bon, ben, ça fait du CO2. Un passage de pulvérisateur, de tracteur avec un pulvé, c'est grosso modo 3 kilos de CO2 à l'hectare, pour chaque passage. Bon, 3, 4 passages, voyez. Il y a autre chose également que l'on n'aborde pas, c'est-à-dire que on ne veut pas trop en parler, parce qu'on va nous dire, attendez, mais on est déjà traité d'agri-businessman, d'agri-industriel et tutti quanti, donc c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais je peux me permettre d'en parler ici, parce qu'en fait, le citoyen a besoin de ces informations. En fait, au-delà, comment dirais-je, du gain et de l'insecticide qui n'est pas utilisé, il y a cet aspect CO2, l'éco-bilan. Donc le passage de tracteur, certes, c'est une chose, mais il y a également l'aspect séchage. Vous savez qu'un maïs qui est ramassé à 33, 34, 35 d'humidité, on doit le sécher jusqu'à 14% d'humidité. Donc, il y a des frais de séchage. Un maïs OGM, un pied qui est sain, un pied qui n'est pas attaqué, un pied qui s'est développé naturellement, sans stress. Mais c'est un pied, c'est un véritable bambou. Ce qui veut dire qu'à l'automne, on n'a pas cet empressement de récolter précocement au 15 octobre, au 20 octobre, avec la peur d'avoir un coup de vent, d'avoir un excès de pluie. C'est des maïs que l'on ramasse. Moi, je ramasse des maïs au mois de novembre, au mois de décembre. Prenez l'exemple des Espagnols. Vous allez en Catalogne, vous allez en Aragon. Et bon, moi, j'ai des collègues qui ramassent le maïs au mois de janvier. Fin décembre, au mois de janvier, ils ramassent des maïs à 17-18% d'humidité. C'est du maïs qui sèche naturellement, tranquillement. Économie d'énergie, économie de CO2. On a fait un petit calcul. Vous permettez que je regarde mes notes, parce que je n'ai pas tout en tête. Malheureusement, 6 points d'humidité. Vous voyez, vous ramassez du maïs à 32 d'humidité, et 150 quintaux de grains humides à 32 d'humidité, et les mêmes 150 quintaux, ou un petit peu moins, à 26 d'humidité. C'est 260 kilos de CO2 de moins, et d'économiser qui ne part pas dans l'atmosphère. 260 kilos de CO2. C'est-à-dire que si on ajoute ce CO2 aux 2, 3, voire 4 passages de pulvérisateur, plus ce que je comptabilise également, c'est que derrière du maïs OGM, il n'y a pas l'obligation, c'est pas utile de passer un broyeur. Parce qu'en fait, quand vous ramassez du maïs, les machines sont équipées d'un broyeur, sous-cueilleur. Ces machines coupent les tiges à 25, 30 cm de profondeur. Mais il faut savoir que la sésamilapirale, pour hiverner, elles descendent dans le tronc, elles vont hiverner dans la terre. Donc, pour en détruire le maximum, eh bien, on passe un broyeur et on essaie de broyer les tiges restantes jusqu'au le plus ras possible, de manière à éliminer le maximum de lépidoptères. À partir du moment où c'est du maïs OGM, vous n'avez pas besoin de broyer. Un broyage succinct sous le cueilleur, c'est suffisant. Donc, c'est un broyage en moins. Mais un broyage, ça nécessite de la puissance. Oula. Donc c'est comment dirais-je, c'est 10 litres de carburant à hectare. Si vous comptabilisez le tout, c'est 300 kilos de CO2 à l'hectare. Donc c'est ce qui est énorme. Alors bien sûr, après, il y a à gérer également l'aspect voisinage et également toutes les associations qui tirent dessus, qui nous tirent dessus à boulet rouge. Il y avait quelque chose que j'avais oublié, et c'est pour confirmer surtout ce que disait le conférencier précédent concernant la coexistence. Vous savez quand même très certainement que la France est le premier producteur européen de semences de maïs. Deuxième pays exportateur de semences de maïs. Croyez-vous que les producteurs de semences de ce pays ont attendu le Grenelle de l'environnement pour parler coexistence, pour parler dispersion pollinique? Certainement pas. Alors c'est vrai que ça nous fait un petit peu sourire quand on entend le déferlement, le déchaînement de ces associations qui vous disent « Mais attendez, vous avez des pollens qui circulent à 3-4 000 mètres d'altitude, et combien même ?» Et où le problème? On ne peut pas confondre dispersion pollinique et fécondation. Donc, moi, sur mon exploitation, je disais tout à l'heure, je produis du maïs doux, maïs standard et maïs doux supersuite. Donc ces deux-là ne doivent pas se mélanger. Et bien sur la même exploitation, j'espace mes semis de 5-6 jours. Et le tour est joué. Je vous fais pousser du maïs bio à côté de maïs OGM. Ça pose aucun problème. Pour cela, il faut jouer la transparence. Et c'est vrai que moi, personnellement, je suis favorable à la transparence totale. Malgré les exactions, si on veut avancer, il faut cette transparence. Je sais que dans nos associations, tout le monde n'est pas d'accord. Mais ceci dit, il faut jouer cette transparence. Pour en finir rapidement. Oui, alors bien sûr, il est évident qu'au niveau de nos associations, il y a eu quand même un sacré coup de gueule cet été en dénonçant cet état de fait, c'est qu'en fait, on nous interdit de produire en France ce que l'on consomme tous les jours. C'est 31 produits génétiquement modifiés qui rentrent en France, en Europe. C'est 22 millions de tonnes de soja, de graines de soja. 85-90% sont OGM. Le maïs que l'on produit en France, qui est transformé en Espagne. Ensuite, les Espagnols nous ramènent les chorizos, les jambons et les œufs, et tout y quanti. Il faut arrêter cet état de fait. C'est grotesque. Alors c'est vrai que on vit très mal, bien sûr, cette interdiction de cultiver. Alors qu'en fait, nous avons besoin de ces outils. On a un défi, l'agriculture a un défi énorme à relever. C'est-à-dire que il y a une explosion de la population, il y a ce réchauffement climatique, qui dit réchauffement climatique dit pression parasitaire plus importante, c'est le manque d'eau, c'est l'après pétrole. C'est valeur aujourd'hui 50% de phytopharmacie en moins. Nous ne sommes pas contre, mais il faut quand même des solutions alternatives. On est attaqué donc sur les OGM, sur les phytos, sur l'eau. Que nous reste-t-il pour travailler? Je vous pose la question. Doit-on penser que la France sera un sanctuaire pour les vacanciers et un sanctuaire pour les ours dans les Pyrénées? Il y a de quoi se poser des questions. Ceci dit, on ne doit pas baisser les bras. On ne doit pas baisser les bras parce qu'effectivement, on a besoin de ces technologies. Nous en avons besoin. C'est incontournable. L'agriculture a ses défis à relever. Pour ça, il y a deux axes. Il y a le sol, évidemment. Un sol, c'est l'agriculture durable, c'est adopter le système brésilien de semi-direct sous couvert, c'est protéger le sol, c'est le faire vivre. Et puis ensuite, bien sûr, la génétique. La génétique, quand même, c'est 2 à 3 quintaux de gain par an. C'est énorme. Plus, bien sûr, les biotechnologies qui nous ont permis de faire un sacré bond. Mais nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Et ça, c'est incontournable. Demain, on ne peut pas, je ne vois pas comment demain on va pouvoir continuer. Les OGM, une réalité aujourd'hui, une nécessité pour demain, pour nous permettre de relever les défis alimentaires et environnementaux dont nous sommes confrontés. Et pour cela, évidemment, nous avons besoin de cette communication, de l'information. Cette information sera primordiale. Et j'en profite ici, là j'ai des amis allemands qui sont partis de Dinoplant, une structure qui bosse énormément en Allemagne. Et Dieu sait qu'en Allemagne, c'est pas de la tarte non plus. Il y a des problèmes également. Et bien voyez, aujourd'hui, dans le programme Interreg 4, il y a, l'opportunité de monter une structure européenne avec du financement européen, justement pour axer sur la communication, sur la pédagogie, sur l'argumentation. Et Dieu sait qu'aujourd'hui en France, je peine personnellement à trouver un président de conseil général, une comité de communes, une commune pour justement faire partie de cette association qui va nous permettre effectivement de franchir ces caps et de manière à ce que le citoyen lambda ait l'information. Je vous remercie de votre attention.
C'était Claude Ménara, cultivateur de maïs OGM dans le Sud-Ouest, qui, malgré le moratoire et les intimidations des différents mouvements écologistes, poursuit la culture de son maïs, persuadé du bien fondé de ses cultures. Claude Ménara et Jean-François Bach s'exprimaient dans le cadre d'un colloque international qui se déroulait les 15 et 16 septembre 2008 à l'Institut de France. Il était consacré aux biotechnologies dans le monde végétal. Restez à l'écoute de Canal Académie et téléchargez les deux autres volets de ce colloque portant sur les questions suivantes. Les OGM peuvent-ils améliorer les plantes et peuvent-ils résoudre tous nos problèmes? Téléchargez également l'intervention du philosophe et ancien ministre de l'Éducation nationale Luc Ferry sur les dangers du principe de précaution, un regard sur l'interdiction de la culture des OGM en France. Merci de votre écoute et à très vite pour de nouvelles retransmissions.